accueillir Sylvia Depierre et on va faire du sport.
On va faire du vélo.
Ouais.
Enfin,
je ne sais pas si c'est un temps bien propice à faire du vélo.
Oui, je pense que c'est pour la trêve. Oui, mais je crois que là, il a rangé le vélo, hein, qu'il le ressortira bientôt, par contre, hein, dans quelques jours, mi-février, fin février, je crois. On en reparlera avec lui. Mon invité, c'est Régis Parraz, passionné de vélo. Il habite la Motte-Servolex, pas très loin de Chambéry. Il est le président du club des 100 cols et il a réalisé l'année dernière un Tour de France des frontières à vélo, un peu plus de 7700 km. Donc, il viendra nous raconter tout ça, sa passion et puis le club des 100 cols, qui est vraiment un club d'envergure. Il y a plus de 2500 adhérents dans le monde entier, 18 nationalités représentées. Et pour adhérer, ben Serge, par exemple, vous ne pourriez pas. Il faut avoir fait 100 cols à vélo.
Je préfère regarder, c'est quand même.
Et un certain nombre quand même au-dessus de 2000 mètres en plus. Donc voilà le programme. Bienvenue dans notre rendez-vous cette année-là de ce jeudi 2 février. Je suis ravie de vous retrouver. Notre invité cet après-midi est Régis Parraz, amoureux de la petite reine. Il habite la Motte-Servolex. Il est le président du club des 100 cols et a réalisé l'année dernière un Tour de France des frontières en suivant les frontières à vélo. Régis Parraz a exercé le métier d'instituteur pendant 37 ans et a commencé le vélo en 1988, juste après avoir arrêté de pratiquer le rugby. Mais comme il s'ennuyait sur le plat, il a très vite pris le chemin d'école et adhéré quelques années plus tard au club des 100 cols, un club qui rassemble des passionnés de vélos de montagne qui ont gravi au moins 100 cols différents, dont 5 au-dessus de 2000 mètres d'altitude. En 2011, il a entrepris seul un Tour de France en suivant les frontières, un périple d'un peu plus de 7700 km. Régis Parraz est avec nous cet après-midi jusqu'à 15h. Régis Parraz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Alors, depuis votre premier col, vous tenez votre comptabilité. Tous les membres, d'ailleurs, du club hein, tiennent leur petite compta.
Oui.
Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et vous en êtes-vous à 2546 cols?
C'est ça.
Pas mal. Voilà. En Europe, vous hein?
En Europe.
Mais tout peut être comptabilisé.
Tout, aussi bien en Asie, en Afrique. On a des membres qui sont allés au Tibet, on a des membres qui sont allés dans les Andes, qui vont aux États-Unis, au Canada,
donc,
partout.
Donc, col routier, mais aussi col, même si une voiture passe pas, enfin du moment qu'il y a un sentier, qu'on puisse le
col
faire.
Col multier aussi, c'est ce qu'on appelle les cols multiers.
C'est voilà. Comme ça qu'on les appelle.
Donc, on peut les franchir en VTT aussi.
Vous en faites combien par an à peu près? Ça dépend des années?
Ça dépend des années, ça dépend des massifs, parce qu'il y a des massifs où les cols sont... Il y a des massifs très denses en col, comme les Vosges, comme la Drôme aussi, qui est le département français qui comporte le plus de cols.
Ah oui, on n'aurait pas cru comme ça. Ouais.
La Drôme, la Corse aussi. Donc c'est pas des cols d'altitude, mais chaque fois qu'il y a un col, et ben c'est une porte qui s'ouvre et on découvre des paysages. Enfin, de toute façon, c'est une invitation au voyage, c'est une invitation à la découverte, la collection.
Est-ce que vous avez fait presque tous les cols des Alpes ou pas? Peut dire ça?
Les cols routiers à plus de 2000, oui, je les ai tous faits.
Fait, ouais.
Ah non, il y a des cols qui sont inaccessibles. Les cols qui sont dans le Mont Blanc, dans le massif du Mont Blanc, parce qu'on recense tous les cols, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les franchir avec un vélo.
Mais ils sont tous recensés.
On a un catalogue de cols. On a d'ailleurs des catalogues un peu sur beaucoup de pays étrangers. On a des groupes de travail qui élaborent des cols. Alors, ce sont des recherches sur des cartes. Actuellement, en France, on en découvre pas mal sur les cadastres, depuis que le cadastre est en ligne.
On sait combien il y en a en France de cols?
Alors, nous, on a un catalogue qui comporte plus de 11 000 cols, routiers et multiers. Ouais. Mais on en découvre encore tous les jours sur le cadastre.
Et certains ne sont pas du tout franchissables ou...
Ah oui, bah les cols sont par exemple dans le massif du Mont Blanc, le col du Mont Maudit, enfin, il y a des cols qui ne sont pas franchissables.
À vélo, en tout cas.
En vélo, voilà.
Et est-ce qu'il y a des recordman dans le club? Par exemple, est-ce que vous, depuis que le club existe, celui qui a eu le plus de cols, il est monté à combien de cols?
Il est monté à 10 000 cols.
Et 10 000.
Il a dit j'arrête de compter, donc il s'est arrêté.
Il compte plus depuis. Voilà.
Non, il compte plus. Alors lui, il en a fait un peu dans tous les pays du monde.
10 000, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Combien d'adhérents dans le monde entier?
Alors on a 2500 membres actifs actuellement, mais il y a eu plus de 7000 membres, enfin pratiquement 7000 membres depuis la création du club.
Qui date
en 1972.
Mais on reviendra sur l'histoire du club tout à l'heure. Oui. Et je lisais aussi dans votre petite présentation 18 nationalités représentées. Donc on voit qu'il n'y a pas que les Français, évidemment, qui adhèrent à ce club des 100 cols. La devise du club, Régis, j'aimerais que vous nous la donniez. Vous l'avez donnée en préparant l'émission, j'ai trouvé fort sympathique.
Oui, alors c'est une devise qui est écrite au col du Brenner. C'est les cols séparent les vallées, divisent les eaux et unissent les hommes.
C'est très joli. Et ça unit tous les membres du club des 100 cols.
Exactement.
On va vous découvrir aussi, Régis, puisque c'est l'occasion de revenir sur votre parcours à vous. Et on s'arrêtera sur deux dates qui ont marqué ce parcours, justement. On va démarrer en musique, pas à vélo, mais comme un avion sans ailes, c'est Charlie Couture. Régis Parraz est l'invité de cette année-là. Il est le président du club des 100 cols, un club qui regroupe des amateurs de vélo de montagne qui ont gravi au moins 100 cols différents. Et puis, vous êtes venu aussi nous parler de ce Tour de France des frontières que vous avez suivi à vélo l'année dernière. On y reviendra. Avant, on va vous découvrir un petit peu, Régis. Alors, vous êtes savoyard. Depuis 1960, vous êtes dans notre région. Autrement dit, vous étiez tout gamin.
Oui, j'étais gamin.
Tout petit. Instituteur à la retraite.
C'est ça.
Hein, votre dernier poste était à Jacob Bellecombette, en Savoie, tout près de Chambéry. Alors, le premier sport auquel vous vous êtes adonné vraiment avec passion, ça n'a pas été le vélo, c'était plutôt le rugby.
C'était le rugby au Soc Chambéry.
Pendant longtemps, vous avez joué au rugby?
Ouais, j'ai joué pendant plus de 20 ans, oui. Mais j'ai joué dans les équipes de jeunes, enfin cadets. Et puis, quand j'étais adulte, après, j'ai joué un an en Angleterre.
Sympa, ça.
Ouais, c'est vrai, oui.
Vous êtes parti vivre, du coup, là-bas.
Je suis parti un an travailler en Angleterre, oui.
Et qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais assistant de français dans un lycée.
Ça vous a bien plu comme expérience?
C'était un peu dur parce que c'était en pleine guerre du mouton. Donc il y avait des tensions entre la France et la Grande-Bretagne. Et les Anglais sont très nationalistes.
Et donc forcément...
Ça n'a pas toujours été évident.
Bon, en tout cas une expérience intéressante sur le plan du rugby.
Sur le plan du rugby, c'était... Alors en revanche, oui.
Ouais, bien. Ah, oui.
C'était très amateur, on payait pour jouer. Là, il n'y avait pas de prime de match, on payait pour jouer.
Ouais, c'est une autre ambiance, ça.
C'était une autre ambiance.
Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté le rugby?
L'âge. L'âge et puis les blessures.
Vous étiez blessé?
Je me suis cassé des côtes, j'ai eu des soucis de genoux.
Ouais, quand même.
Voilà.
Ouais. Et alors, du coup, la reconversion, vous l'avez fait sur le vélo parce que vous étiez quand même un sportif et vous aviez envie quand même de faire quelque chose, quoi, de ne pas rester inactif. C'est comme ça que vous êtes monté sur un vélo.
Oui. Mais bon, je faisais quand même de la balade en montagne. J'ai toujours aimé la montagne.
Donc,
je faisais des marches.
Du coup, le vélo, vous l'avez monté un peu en montagne.
Voilà.
Ouais. Et le premier col, alors racontez-nous le tout premier col que vous avez gravi, c'était le col du Granier. Vous aviez tenté il y a belle lurette avant, d'ailleurs.
Oui, j'avais essayé le col du Granier quand j'avais 14 ans. Je campais au col du Granier avec des copains qui étaient montés en vélo. Moi, j'étais monté à pied. Et puis, on s'est prêté les vélos. Je suis redescendu facilement, la descente jusqu'à Entremont-le-Vieux. Mais quand il a fallu remonter, je suis resté planté sur la route.
Ça l'a pas fait.
Ça l'a pas fait. Il y a un tracteur qui passait par là. J'ai chargé le vélo dans la remorque et je suis monté au col du Granier.
Comme ça.
Comme ça.
Et puis vous avez retenté, donc là, quelques années après.
Là, j'étais vacciné un peu contre le vélo, et puis on m'a prêté un vélo qui avait un triple plateau. Et là, j'ai découvert le triple plateau.
Et ça change tout?
Et ça a tout changé. Je crois que je ne serais jamais venu au vélo si le triple plateau n'avait pas existé. Voilà.
Ouais, parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que quand on fait du vélo dans la région, on trouve ça dur.
Oui.
Évidemment, hein. Voilà. Donc là, ça facilite quand même les choses. Alors, vous aviez mis le pied à terre quand même, vous m'avez confié.
Oui.
Sur ce premier col.
Sur ce premier col, donc j'ai acheté mon vélo et le premier pari, ça a été de monter le col du Granier. Je suis parti avec mon vélo, avec mon triple plateau, mais j'ai pas voulu passer le troisième plateau.
Et pourquoi?
Comme ça, par
bravade,
comme beaucoup qui commencent le vélo et tout. Bon. Je ne sais pas. Je n'ai pas passé le triple plateau et je suis resté planté dans la côte en dessous de Montagnole.
Là-bas. Donc vous avez mis le pied.
J'ai mis le pied à terre, j'ai mis le triple plateau et après je suis arrivé au sommet.
Ouais, c'est magique. Ça compte quand même, rassurez-moi, si on met le pied à terre.
Oui, ça compte.
On compte le col quand même.
De toute façon, maintenant je mets beaucoup le pied à terre pour prendre des photos.
Ah oui, donc c'est pour une autre
raison. Déjà prendre le temps de prendre des photos.
Oui, parce que l'esprit quand même qui vous unit au club des 100 cols, c'est pas la compétition, hein, c'est pas faire. Alors certes, vous comptez le nombre de cols, mais on n'est pas sur ceux qui les font le plus vite ou qui les enchaînent le plus rapidement. On n'est pas là-dedans quand même.
Ah non, il n'y a pas de caractère de compétition. Hein. C'est vraiment.
Il y a un classement quand même.
Il y a un classement, mais c'est un peu pour nous motiver pour aller sur des sentiers ailleurs, pour aller visiter, pour voyager.
Mmh. Voilà. C'est plus pour
c'est
ça,
moteur,
c'est pas dans.
Voilà. Ouais.
Puis pour échanger, du coup, vous donner des cols entre vous.
Hein. Oui, bien sûr.
Vous vous rassemblez souvent, pas au club des 100 cols?
Alors au club des 100 cols, il y a toutes les années, on organise une concentration internationale au sommet d'un col.
Et cette année?
Cette année, ce sera au col de Plainpalais.
Nous avons dans les Bouges.
Dans les Bouges. Voilà, nous avons eu l'autorisation du maire des déserts.
Et en plus, vous fêtez les 40 ans. Donc
et on fêtera les 40 ans.
C'est l'événement, on reviendra sur ce rendez-vous. Alors, il y a d'autres choses que vous faites aussi au Club des 100 cols. Vous faites une revue annuelle avec des articles de gens qui racontent un petit peu leur voyage, leur péripétie, leur col, qui donnent des idées, bien évidemment, avec des photos. Vous faites des petits topo-guides aussi?
Alors, on fait des topo-guides sur des circuits de cols muletiers. Voilà, donc ce sont des circuits qui se font en VTT.
D'accord. Donc il y a la revue, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous faites encore ensemble?
Eh ben les catalogues d'école, puisqu'on en a discuté tout à l'heure. Et là, on a un gros catalogue qui va sortir. C'est un catalogue d'école d'Espagne. qui représente des milliers d'heures de travail avec une équipe internationale. Il y avait un Allemand, un Anglais, des Français, et il va sortir au printemps. Donc l'Espagne, c'est le pays le plus montagneux d'Europe, et on a 15 200 cols qui sont recensés.
Et on disait quoi, 11 000 pour la France tout à l'heure ?
11 000, oui.
Ah ouais, donc il y en a effectivement en plus en Espagne. Si on veut des renseignements sur le club, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, je vais peut-être compter mes cols, voir où j'en suis. On peut aller jeter un œil sur le site internet, c'est très bien fait pour ceux qui veulent des renseignements. C'est, vous tapez club des 100 cols et vous tombez dessus facilement. Hein.
www.sanscol.org.
Ah bah voilà, comme ça, vous l'avez dit, c'est plus simple encore. Sanscol.org. Allez, on retrouve Régis Parras dans quelques instants. On va s'arrêter sur la première année que vous avez choisie, Régis, qui est l'année 1989. Vous nous direz dans quelques instants pourquoi. On parle de vélo avec Régis Parras, amoureux de la petite reine qui habite la Motte-Servolex, qui est le président du club des 100 cols. La première année que vous avez choisi d'évoquer pour évoquer votre parcours, Régis, c'est l'année 1989. Dites-nous pourquoi, Régis.
Alors, 1989, parce que c'était l'année de mon premier voyage itinérant à vélo. Donc, j'avais attaqué le vélo en 88 et le 1989, je suis parti de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Nice, aller-retour par les grands cols Galibier, Isoard, La Bonnette, et revenu aussi par les cols de la Couillole, La Caillole.
Combien de temps vous avez mis ?
10 jours.
5 jours de descente, 5 jours pour remonter.
Une journée de repos aussi,
journée
avec
de repos.
La visite.
D'accord. Oui, tout de suite, un an après, quoi. Très vite, vous avez eu envie de. Il y avait tout de suite l'envie de, ben, d'aller d'un point A à un point B, pas faire toujours les boucles et revenir à la maison le soir.
C'est ça, parce que le voyage en vélo, c'est différent. On a l'esprit qui est beaucoup plus libre. C'est pas comme une sortie à la journée. On n'a pas les soucis du soir. On pense à rien. On avance. Donc, on est beaucoup plus réceptif.
C'est une autre logistique aussi.
Ben là c'était le premier voyage, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le voyage itinérant. Il y en a qui partent avec la tente, avec les bagages. Là, c'est vrai que c'était un voyage, c'était une initiation, donc c'était voyage léger. Ma compagne avec deux copines était en voiture, elle faisait des balades en montagne.
Et vous vous rejoignez.
Et on se retrouvait tous les soirs.
Comme ça, vous n'aviez pas à gérer.
On n'avait pas de bagages, donc ben, ça.
C'est sympa, ça aussi.
C'est une façon
de
faire, et il y en a plein d'autres. Il y en a autant qu'il y a de personnes. C'est une façon qui est très, très agréable aussi.
Et ça vous a donné goût, envie de recommencer, du coup, ça hein?
Du coup, oui. Ouais. L'année d'après, ça a été un voyage dans les Pyrénées. Pareil, la traversée des Pyrénées.
Vous avez fait combien de voyages itinérants, vous savez ?
Une douzaine au moins.
Ouais, une bonne douzaine. Et puis il y en a d'autres de prévus. Il y a l'Espagne qui est prévue, c'est ça ?
Il y a l'Espagne, peut-être l'année prochaine, depuis Gibraltar jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la ligne de partage des eaux.
C'est long à préparer en amont un tel voyage ou pas ?
Oh, bah.
Faut bien prévoir l'itinéraire, avec aussi là où on va dormir, comment on va gérer tout ça ?
Moi, j'aime bien les cartes. Alors, je passe beaucoup de temps à préparer sur carte parce que je suis déjà parti d'une certaine façon. Ça, c'est l'hiver que je fais ça. Les hôtels, non. Je réserve rien d'avance. Enfin, sur mes derniers voyages, je ne réserve pas. C'est, j'avance. Puis quand je suis fatigué, ben, je commence à m'inquiéter de savoir où je vais dormir.
Et vous trouvez toujours ?
J'ai toujours trouvé. Ouais.
Est-ce que parfois c'est chez l'habitant ? Ou pas ?
Alors, chez l'habitant, oui, quand j'ai.
Quand vous connaissez,
quand je connais,
quand
oui.
Par le bouche à, ou même par le club.
Par le bouche à oreille, ou... par des copains qui connaissent des copains. C'est vrai que dans mon tour de France.
C'est un côté sympa aussi.
J'ai rencontré des gens extraordinaires.
Mais on reviendra sur l'histoire de ce tour de France, parce que c'est aussi une histoire de rencontre. Hein, c'est une belle aventure humaine au-delà de l'aspect sportif. Alors, on va rester sur l'année 1989, puisque c'est aussi le principe de cette émission. Cette année-là, on fêtait le bicentenaire de la Révolution un peu partout en France, et de nombreuses communes, écoles et organismes publics ou privés organiser des manifestations pour cette commémoration. Et sur les Champs-Élysées, un immense défilé avait été organisé, supervisé par Jean-Paul Goud. Voilà pour ce souvenir parisien du bicentenaire de la Révolution. Vous étiez, on le disait tout à l'heure, instituteur. Est-ce que du coup, vous aviez fait quelque chose Vous étiez où à l'époque?
J'étais à la Motte-Servolex, à l'école
Motte.
Du Picolet.
Ouais.
Donc, ben, on avait travaillé effectivement sur la Révolution française. On avait fait une fête d'école sur ce thème-là. Et j'avais travaillé avec ma classe sur les cahiers de doléances.
Ah.
Voilà. Alors les enfants sont très très sensibles à l'injustice. Donc ils avaient accroché et on avait fait une petite pièce de théâtre sur les cahiers de doléances.
Ça reste une belle année professionnelle aussi, vous me disiez.
Une très belle année professionnelle. C'était une classe, c'était vraiment ma première classe, parce qu'avant j'avais eu des classes un peu spéciales, on va dire.
Racontez-nous puisque, d'ailleurs, parce que c'est intéressant ce que vous avez fait avant.
J'avais fait des remplacements au début de ma carrière.
Ouais. Comme beaucoup.
Ensuite, j'ai eu pendant quelques années une classe pour enfants qui arrivaient en France, qui ne parlaient pas le français. Donc, j'ai vu arriver des enfants du Cambodge, des enfants du Vietnam qui avaient souffert, qui arrivaient. Et puis, des Turcs, j'ai eu des Afghans aussi.
Quel souvenir vous gardez de ces jeunes enfants? Parce que là, votre rôle est vraiment important. En plus, il y a l'intégration à un nouveau pays. C'est dur pour les petits.
C'était dur, et puis la langue était une difficulté entre eux. Donc il fallait gérer, parce que c'était des attitudes aussi, et tout. Il fallait gérer entre eux. Mais bon,
ils apprennent vite à cet âge-là.
Ils apprenaient relativement vite, et puis j'avais la chance d'avoir des collègues. On les intégrait pour les maths, pour le sport, très vite dans d'autres classes. Et ils revenaient où je leur apprenais le français. Et j'avais des collègues qui étaient très, très réceptifs et très... qui faisaient tout pour les mettre dans de bonnes situations.
C'est une vocation dans le métier d'instituteur?
Oui, au départ, oui. On avait l'image, quand j'ai passé le concours, j'avais l'image de l'ancien instit que j'avais aimé en primaire, parce qu'on a toujours une image de ça, et on a envie de lui ressembler.
Comment vous avez vu le métier évoluer avec les années?
On dit que les enfants sont plus durs, sont plus...
Ouais.
C'est vrai dans le sens où...
Les parents plus exigeants.
Les parents sont peut-être plus exigeants, mais je crois qu'ils aiment toujours leurs enfants. Ils sont beaucoup plus angoissés. Donc ce qui fait qu'ils...
Ils angoissent pour le futur.
Ils angoissent pour le futur et ils mettent beaucoup plus de pression sur le dos des enseignants. Mais le plus dur à gérer actuellement, c'est les enfants qui zappent. Ils sont en zapping, ils ont l'habitude de manger en regardant la télé, donc on est en classe, et ben ils se rendent même plus compte qu'il y a un adulte qui parle, c'est des bruits de fond, et ça c'est très très difficile. Ils ont leur attention qui est très très fugitive.
Vous les avez vus changer les enfants
changer
en 37 ans de carrière?
Beaucoup moins de concentration.
Ouais, surtout ça.
De concentration, ce qui fait que le métier est beaucoup plus dur, parce qu'il faut répéter encore beaucoup plus.
Et l'autorité? Parce qu'on dit ça aussi, on dit que les gamins obéissent moins maintenant, vous l'avez pas ressenti?
Non, je l'ai pas, je l'ai pas ressenti.
Bon, ben on reviendra sur ce métier d'instituteur qui vous a occupé quand même 37 ans de votre vie. Puis on va revenir au vélo et on va parler dans quelques instants de ce fameux Tour de France. Vous avez suivi les frontières, c'était l'année dernière, vous êtes parti entre le 26 avril et le 21 juillet, un périple de 7700 kilomètres. Notre invité cet après-midi, Régis Parraz, le président du club des 100 cols, a réalisé un Tour de France l'année dernière de 7700 km environ. Vous avez suivi les frontières et surtout les côtes.
Oui, surtout les côtes.
Surtout les côtes, parce que c'était ça le plus dur.
Le plus dur, c'était les côtes en Normandie et en Bretagne.
C'est parce que ça remonte, ça descend en permanence?
Ça remonte, ça descend, et des pourcentages épouvantables. On retrouve souvent du 15%, du 16%. On descend au bord de la mer et on remonte.
On aurait pu croire que c'était notre région qui était la plus difficile. Eh bien non, la Normandie, la Bretagne.
La Normandie avec le vent en plus.
Eh oui, il faut rajouter ça aussi. Alors quand vous l'avez face à vous, ça doit être quelque chose. Bon, quand il est dans l'autre sens, ça va mieux?
Ça va, mais je l'ai eu que entre Perpignan et Sète.
Ah! Dans le bon sens?
Dans le bon sens.
Il fallait attendre déjà d'être à Perpignan.
J'ai fait une grosse étape, effectivement.
D'accord. Alors, vous êtes parti du 26 avril au 21 juillet 2011, seul.
Oui.
Ouais, donc là, c'était une autre démarche aussi. Environ 100 km par jour, avec un vélo spécial. Vous avez fait faire un vélo sur mesure?
J'ai fait faire un vélo sur mesure chez Daniel Catin, qui est un artisan à Crolles. Et bon, avec un moyeu, pour les spécialistes, un moyeu roll-off, c'est-à-dire une boîte de vitesse intégrée dans le moyeu arrière.
Ouais, ça change quoi, moi qui n'y connais rien?
Ça me donnait une plus grande latitude de développement, c'est-à-dire que j'avais à la fois des développements de VTT, puisqu'il fallait monter les bagages, il fallait monter le poids du vélo au sommet des cols, donc comme ça j'avais des tout petits développements, et puis des développements quand même un peu plus grands pour être sur le plat.
Un vélo qui pesait combien?
Le vélo pesait 15 kilos et je suis parti avec 15 kilos de bagages.
C'est quand même beaucoup.
Plus le casse-croûte. Oui,
ouais. Ouais, non, c'est...
Ben, c'est faisable avec les développements adaptés.
Oui, voilà, c'est voilà. Du coup, combien de temps de préparation pour un tel périple?
Je l'avais quand même tracé dans les grandes lignes 2 ans avant, et puis j'ai passé tout l'hiver, j'ai passé des heures et des heures...
Avec les cartes?
Avec les cartes, et puis avec la cartographie numérique, il y a plus de 100 000 clics de souris qui font que j'ai intégré tous les parcours aussi dans un GPS.
Est-ce que vous avez parfois improvisé ou vous avez suivi à la lettre ce que vous aviez
décidé?
J'ai
suivi à la lettre, sauf une fois où il y avait une route qui était barrée au sommet d'un col.
Quels ont été les plus beaux souvenirs pendant ce périple à vélo, Agis?
Alors il y a des rencontres. Rencontres d'amis, des gens que je connaissais pas, qui m'ont accueilli les bras ouverts, ça c'est sûr que c'était...
Il y a même des régions qui vous ont mieux accueilli que d'autres.
Ah oui, et puis la Normandie, c'était une des rares régions que je ne connaissais pas, avec le nord de la France, et vraiment, j'ai trouvé ça magnifique, la Normandie. Il y avait des champs de lin d'un vert tendre qui ondulaient sous le vent, avec le bleu de la mer à côté, c'était magnifique.
Vous avez pris le temps de prendre des photos, parce que vous avez ramené des photos aussi.
J'ai pris 2500 photos. Donc voilà, je me suis arrêté souvent. J'ai beaucoup aimé aussi le nord de la France. Le nord de la France, c'est bienvenue chez les ch'tis, c'est pas une légende. Et il y a un respect des cyclistes par les automobilistes, des cyclistes, même des piétons aussi, parce que je voyais dans une grande ville comme Lille, où les voitures s'arrêtent pour laisser traverser les gens, quand on est suivi par une voiture, elle va pas nous doubler, nous faire une queue de poisson pour tourner à droite tout de suite derrière, elle attend patiemment. Alors ça, le nord de la France, le Pas-de-Calais, et puis la Manche, vraiment...
Ça vous a marqué?
Ça m'a marqué, vraiment, le respect du cycliste.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des régions qui ont été un peu plus difficiles?
Ah oui, alors le Var, où là, je me suis même fait tasser contre un trottoir. La seule faute que j'avais faite, c'est que j'étais plus sur la piste cyclable, puisque de toute façon, je me rendais sur un itinéraire où il n'y en avait pas.
Et alors, voilà. On vous a carrément poussé...
On m'a poussé contre le trottoir, en me traitant, bon, je laisserai le mot,
ouais, mais d'accord.
J'avais rien à faire là, quoi.
Parce que vous étiez sur un vélo.
Parce que j'étais sur un vélo, j'étais tout seul, donc j'étais pas à gauche, j'étais bien à droite.
Ouais. Voilà. Et dans la région, alors, comment on est, avec le recul maintenant?
Je dirais que c'est pas le Nord, c'est pas le Var non plus.
C'est pas le Var non plus. Mais voilà. On a encore un peu de boulot à faire,
Mais bon, je crois que aussi, il y a certaines fois, il y a des cyclistes qui ont du boulot aussi à faire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous comprenez aussi que parfois, les cyclistes qui restent alignés et prenant toute la route, ça peut aussi parfois agacer, surtout dans les cols, puisqu'on parle de cols, ça peut aussi agacer parfois les automobilistes.
La route se partage.
Ouais.
Maintenant, quelquefois, on se fait klaxonner dans un col, on est deux, là, à côté de l'autre, il y a de la visibilité, bon. Mais bon, il y en a qui se portent pas, mais c'est vrai que s'il y a pas de visibilité, on se rabat et on laisse passer l'automobiliste.
Oui, il faut du respect pour des deux côtés,
je crois
de toute façon.
Ça partage des deux côtés.
Pas de casse, pas de blessure pendant ce périple?
Non, c'est ça. C'est la chance, ça a été le beau temps et pas de problème de santé.
Ah, c'est super ça.
5 heures de pluie en 50 jours, les 50 premiers jours.
Vous avez vraiment effectivement de la chance. Alors en plus, vous avez tenu un blog tout au long du périple.
Oui.
Donc vous vous arrêtiez à chaque fois, il fallait qu'il y ait internet pour où vous avez une clé 3G, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé.
J'ai utilisé la clé 3G 2-3 fois, mais elle n'est pas toujours passée dans les Pyrénées. Mais j'ai toujours trouvé un accès internet, donc j'avais un petit ordinateur dans mes bagages et puis je faisais mon...
Et tous les jours vous racontiez un petit peu ce que vous traversiez.
Ah, oui.
Et les gens ont beaucoup réagi à ce blog, ils parlaient avec vous.
Oui, il y avait des commentaires tous les soirs et ça m'a soutenu. Bon, je souffrais pas de solitude et tout, mais ça motivait.
Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté un peu introspectif quand même? Parce que quand on est tout seul sur un vélo toute la journée, combien d'heures par jour sur le vélo?
8 heures à peu près.
Ouais, 8 heures par jour. Mmh. C'est aussi l'occasion, même si on apprécie le paysage et même si on s'arrête pour faire des photos et éventuellement des rencontres, c'est aussi l'occasion de revenir un peu sur soi, sur sa vie, sur son parcours. Ça sert aussi à ça.
Un petit peu, mais dans un voyage comme ça, on n'a pas de soucis. On n'a que soi à penser, on oublie tout, quoi. Donc, effectivement, oui. On
revient comment? En forme?
En forme. Mais juste sur le coup, la première semaine est très lourde à digérer. Hein. Un seul coup, on est vidé. On a ce projet qui nous a porté.
Faut trouver un autre projet.
Voilà. Ouais. Et bon, c'est vrai que j'avais plus d'énergie du tout quand je suis revenu. Mais bon, on fait une sortie le dimanche d'après avec les amis du club de Yann. C'est reparti.
Il y a beaucoup de gens qui partent maintenant. Moi, j'en ai reçu un certain nombre à votre place, Régis, qui partent faire des tours du monde à vélo, d'autres en tandem, avec des enfants, sans enfants. Ça aurait été quelque chose qui vous plairait, carrément un tour du monde. Il y en a qui sont partis un an. Il y a un Suisse qui est parti, Martaler, que j'ai reçu à votre place, qui est parti, lui, je crois, un premier tour du monde, c'était en 3 ans. Quelque chose d'incroyable. Ça vous plairait?
Pas forcément, non, parce que je ne suis pas aventurier.
Vous aimez bien rentrer à la maison.
Voilà, non. Ouais. Mais bon, il y a...
Ah, mais il y en a pour tous les goûts, c'est l'avantage du vélo.
Pour tous les goûts, ouais. Je crois qu'il y a autant de façons d'en faire qu'il y a de gens.
On va évoquer la deuxième année que vous avez choisie, Régis, c'est l'année 1995. On y revient dans quelques instants après Léo Ferré. Régis Parraz est l'invité de cette année-là. Il habite la Motte-Savolex près de Chambéry. Il est le président du club des Sans-Cols et avec nous cet après-midi. La deuxième année que vous avez choisie, Régis, c'est l'année 1995. Pourquoi cette année-là?
Parce que là, c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait en vélo. Je suis parti de Thonon avec deux amis et nous sommes allés jusqu'à Trieste, à travers toutes les Alpes suisses et les Dolomites.
Sur la côte adriatique, c'est ça?
Sur la côte adriatique.
Voilà. C'était pour vos 40 ans?
C'était pour mes 40 ans.
C'était le cadeau d'anniversaire?
C'était le cadeau d'anniversaire. C'était un pari parce que c'était quand même un voyage qui allait durer 12 jours. Donc c'était le plus long. J'en avais jamais entrepris. Et puis avec des cols prestigieux, style Stelvio. Donc je ne savais pas dans quoi je me lançais.
Et pourquoi pour vous c'est le plus beau? Esthétiquement c'est le plus beau?
Esthétiquement c'est le plus beau. Les Dolomites c'est magique.
Les
Dolomites, le plus beau. Et puis une forme aussi. Vraiment un état de forme comme j'en ai jamais eu.
C'était votre grande époque?
Oui, c'était la grande époque.
Et sans EPO, rien?
Rien du tout.
Rien du tout.
au pastis olive.
Au pastis olive, ben comme quoi, ça marche. Est-ce que du coup, vous vous astreignez à justement une hygiène de vie particulière ou pas?
Non, pas
même
forcément.
Quand vous savez que vous allez partir sur quelque chose d'un peu plus engagé, quoi, physiquement, non?
Bon, ben, bien sûr, des pâtes, du riz.
Ouais, les sucres.
Mais bon, moi, je...
Vous savez, vous faites plaisir, voilà. Vous faire plaisir quand même.
Le cyclotourisme, ben, c'est la découverte du patrimoine, donc le patrimoine culinaire, il en fait partie.
D'ailleurs, quand vous avez fait votre tour de France l'année dernière, pareil, vous avez goûté un peu les spécialités à chaque fois du coin.
Oui, j'ai profité de mon passage en Bretagne pour manger pas mal de poissons. J'ai mangé pas mal d'huîtres aussi.
Vous vous êtes fait plaisir. Ben, vous savez qu'en parlant d'huîtres, la semaine prochaine, à votre place, mardi prochain, on aura le champion du monde d'ouverture d'huîtres.
Et de Montémont, je parie.
Et de Marcella Albanais. Non, Montémont.
Montémont, c'est un village qui donnait des écailleurs d'huîtres.
Alors comment ça se fait qu'on a beaucoup de gens de Savoie et Haute-Savoie qui sont écaillés? Vous savez pourquoi?
Je l'ai su, mais...
Alors, on cherchait. Voilà. Alors, si vous avez l'information, vous pouvez nous appeler pour nous le dire. On a émis l'hypothèse que comme les Savoyards avaient l'habitude du froid, d'avoir les mains un peu dures, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'écaillés qui sont originaires de notre région. Mais on lui demandera aussi à notre invité mardi prochain, et puis vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. En tout cas, l'invité qu'on recevra, il ouvre 2064 huîtres à l'heure. C'est pas mal.
Pas mal.
Et alors pour l'anecdote, il en ouvre 28 les yeux bandés en 60 secondes. Bon, ouais. Si vous aimez les huîtres, vous pourrez venir nous voir, hein, Régis.
D'accord.
Vous repassez mardi prochain, il y aura des huîtres ici.
Ah ben, volontiers.
Alors, Tonon Trieste, ça s'est fait en combien de temps, ça, là, en
95? Ça s'est fait en 12 jours.
Vous l'avez dit, 12 jours, combien de kilomètres, c'était ça, je voulais vous demander.
1300 kilomètres.
1300 kilomètres. Et une bonne ambiance aussi, parce que c'est aussi une aventure humaine, là, vous étiez parti avec des amis.
Oui, et puis ça s'est vraiment très très bien passé. On avait des yeux, tout le monde avait les yeux écarquillés, il n'y a eu aucune tension, rien du tout. On avait vraiment du plaisir et on le partageait. Ce qui fait que l'école était encore plus beau. Parce qu'un col, quand on le franchit avec quelqu'un et qu'il y a de l'émotion, il est encore plus beau.
Faut partir par contre avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau que soi. C'est important ça peut-être pour pas... Non.
Oui. Enfin, pas qu'il y ait des écarts
trop
terribles,
ouais.
Mais
ouais.
Bon, on s'attend et puis on peut s'adapter. C'est toujours plus facile de rouler moins vite que de rouler plus vite.
Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, on va s'arrêter sur l'année 1995. Je ne sais pas si vous suivez le sport hormis le rugby, mais cette année-là, l'équipe de France de handball devenait championne du monde. Vous vous en souvenez?
Oui.
Ouais, vous suivez un peu le sport.
Je suis le hand aussi, oui.
Avec Chambéry en plus. Vous êtes déjà allé les voir?
Oui.
Au phare.
Trois fois.
Ouais. On retrouve un peu, je trouve, dans le rugby comme dans le handball, un peu les mêmes valeurs.
Oui. Bah, de toute façon, c'est des sports collectifs où on n'est rien tout seul.
Et par exemple, dans le football,
on existe avec l'autre.
On a marqué.
Football, des qualités individuelles, peuvent déterminer un match. Alors qu'au rugby, même si on est quelqu'un qui est brillant, il n'existe pas sans les autres.
Et un fort esprit d'équipe aussi en cyclisme, qu'on connaît moins, mais quand on s'intéresse un peu aux courses, on recevait aussi il n'y a pas très longtemps Jackie Durand qui nous racontait que c'est aussi un sport d'équipe, le vélo. Hein.
Mais de toute façon, c'est important aussi de ne pas être tout seul quand on souffre dans un col, encourager quelqu'un et tout. On le vit même en amateur, hein, pas forcément dans une course.
Vous soutenez beaucoup.
Oui.
Vous faites beaucoup de courses à plusieurs, beaucoup de rando à plusieurs.
Alors on organise des séjours aussi chaque année. Et puis des randonnées aussi permanentes, effectivement, les gens en font à plusieurs. Et puis, bon, il n'y a aucun esprit de compétition. Donc,
quel que soit le niveau, on peut participer.
Quel que soit le niveau, si on fait du VTT, on s'attend aux intersections. On n'est pas là pour arriver le premier. Donc ça donne envie à certains de continuer.
Voilà. On va écouter encore un peu de musique. On va écouter Adèle avec Someone Like You. Et puis on va se retrouver. Régis, vous allez nous parler un peu de vos souvenirs. Et on va revenir sur les cols, parce qu'on va profiter d'avoir le président du club des 100 cols pour parler un petit peu des plus beaux, des plus durs que vous avez franchis et des plus hauts aussi, pourquoi pas. Régis Parraz, le président du club des 100 cols, est notre invité cet après-midi. Régis, quels sont les plus beaux cols que vous avez franchis?
Alors bon, bah le Galibier, je dirais.
Ouais,
le Galibier, ça reste
un grand col. Hein.
Un grand col. L'Iseran. Alors l'Iseran, c'est pas le sommet qui est le plus beau, mais c'est vraiment l'ascension quand on le monte côté Maurienne. On a d'abord la première rampe au-dessus de Bonneval avec les toits en lauze, et puis dès qu'on franchit l'éperon, là, on arrive dans un vallon où il y a des marmottes. C'est vraiment un très très beau col. Parce que dans un col, il y a le sommet, mais il y a vraiment toute l'ascension qui est belle. Puis il y a ce qu'il y a derrière aussi. Souvent. Alors je suis un peu frustré quand le col il redescend pas de l'autre côté, parce qu'on a des cols qui sont...
On est obligé de redescendre par là où on est monté, d'accord. Alors à l'inverse, les plus durs, enfin, ça peut être les mêmes d'ailleurs, hein, mais ceux dans lesquels vous en avez bavé.
C'est dans le Pays Basque, sans compter, là il y a deux cols dans le Pays Basque, le col Burdin-Curucheta et puis le col de Soudet cette année dans mon Tour de France. Où là, il y a des
Et pourquoi ils sont plus durs? Parce que c'est le degré de la pente.
Les pentes,
d'accord.
À le Pays Basque, c'est terrible. Le Soudet, il y a aussi des pentes à 15%. Il est long.
Et on pose le pied ou pas quand c'est comme ça?
Ça m'est arrivé, ça arrive, oui.
Le plus haut que vous ayez franchi?
Le col Sommeillé. Le col Sommeillé.
Je ne connais pas celui-là, dites-nous.
Alors ça, c'est un col muletier. C'est un col qui est frontalier entre la France et l'Italie, côté Maurienne. Donc on le prend depuis Bardonnèche.
D'accord.
Et là, c'était mon 2000e col.
C'était le 2000e, le plus haut, le col Sommeillé. Et le 1000e, c'est parce que vous en êtes à 2546. C'était lequel, le 1000e? Parce qu'on compte comme ça,
oui,
c'est qu'on
le
1000e,
c'est une légende du cyclotourisme. C'est le col du Parpaillon qui est au-dessus d'Embrun.
Un beau col aussi?
Très, très beau col. Oui, oui.
Vous avez une région de prédilection dans le coin?
Chaque région a ses atouts. Ouais. J'aime beaucoup le Beaufortin. Alors le Cormet de Roseland fait aussi partie des très beaux cols.
Alors vous organisez quelque chose de très bien, vous proposez des randonnées permanentes pour ceux par exemple qui nous écoutent, qui aimeraient bien adhérer mais qui ont peut-être jamais compté leur col ou qui veulent peut-être se mettre en jambes. Alors vous proposez des itinéraires dans chaque région, dans chaque coin, ou vous proposez un itinéraire de 100 cols qui permet à terme donc d'adhérer au club.
Voilà, on a 14 randonnées permanentes, dont une en Espagne sur la ligne de partage des eaux. On en a une en VTT exclusivement, 14 où il y a 100 cols en forêt noire. Voilà. On a 100 cols en Ardèche, 100 cols en Drôme. Alors, il y a un petit bémol, c'est que ces randonnées, il n'y a pas de cols à plus de 2000, donc elles ne permettent pas
Cols,
de rentrer. Il faut se faire le Galibier, il faut se faire l'Isran, il faut venir en Savoie. Il
faut se faire les 5 cols au-dessus de 2000.
Il y a d'autres cols à plus de 2000 ailleurs, bien sûr.
Pour les avoir, ces petites randonnées permanentes, elles sont accessibles sur Internet?
Alors, elles sont sur notre site.
C'est gratuit,
randonnées permanentes. Alors, oui, il y a un tarif modique d'inscription. Ça donne une carte de route, ça donne l'itinéraire et
ça donne tout. C'est un package.
Elles sont présentées justement sur le site internet.
Eh bien, allez voir sanscol.org pour ceux qui aiment bien, qui découvrent un peu le vélo de montagne, qui aiment bien franchir les cols. Et ben ça donne des itinéraires sympas. Puis ça permet à terme d'adhérer au club des sanscols. On rappelle aussi donc les 40 ans du club avec une grande fête dans les Bauges ce week-end. Et puis il y a d'autres rassemblements.
Cet été.
Pourquoi je dis ce week-end?
Voilà.
Cet été. Et puis il y a d'autres rassemblements aussi que vous faites.
Alors déjà pour le 40e anniversaire, il y a aussi le président fondateur qui a créé ce club en 1972.
On n'en a pas parlé, oui.
Non, on n'en a pas parlé. C'est en franchissant le col du Luitel avec des copains. Et c'était son 100e col. Et il s'est aperçu que tout le monde notait un peu les cols qu'il faisait. Donc ils ont eu l'idée de créer ce club.
Redonnez-nous son nom.
Jean Perdoux,
c'est lui qui est à l'origine du club.
C'est lui qui est à l'origine. Et puis,
Il
fait toujours partie du club des 100 cols. Il a le numéro 1, puisque quand on a un numéro, quand on rentre...
On le
garde tout le temps. Cette année, on va avoir le numéro 7000.
Que vous allez attribuer à qui?
On va attribuer le numéro 7000 à un non-voyant qui fait des choses extraordinaires et à vélo. Et on a voulu un peu apporter un témoignage, parce que le vélo, c'est sûr qu'il faut avoir la santé, mais... pas que la santé, c'est un sport si on a les braquets adaptés, si on a l'humilité, qui est quand même à la portée de beaucoup de monde. Donc on a aussi des membres qui manquent une jambe, une jambe, un bras, on a des membres qui sont handicapés, et on va leur apporter aussi un témoignage.
Par la même occasion. Et voilà, ce sera le 7000e. Merci beaucoup Régis, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sans col, col avec un S, .org si vous voulez adhérer. Merci beaucoup Régis, et bonne continuation à vous.
Au revoir.